Radio, deuxième partie, chapitre 11. La colère des Épanchines ne s'apaisa que le surlendemain. Quoique le prince, selon son habitude, se reprochât bien des choses et s'attendît à un châtiment, au fond pourtant, dès l'abord, il avait cru qu'Élisabeth Prokofievna ne pouvait pas lui en vouloir sérieusement et qu'elle était plutôt fâchée contre elle-même. Aussi éprouva-t-il une pénible surprise quand il vit qu'on lui gardait une si longue rancune. D'autres circonstances encore le rendaient perplexe. Une surtout, durant ces 3 jours, acquit peu à peu une importance énorme aux yeux du prince. Depuis quelque temps, il avait le regret de constater en lui 2 tendances opposées et excessives, l'une comme l'autre. D'une part, une confiance extraordinaire, insensée, d'autre part, une basse et ténébreuse méfiance. En un mot, à la fin du 3e jour, l'incident de la dame excentrique interpellant de sa calèche Eugène Pavlovitch avait atteint dans l'esprit soupçonneux du prince d'effrayantes et mystérieuses proportions. Pour lui, le fond de l'énigme se ramenait à cette question qu'il se posait douloureusement. Était-ce lui, à proprement parler, la cause de cette nouvelle monstruosité? Ou seulement... Mais quel autre encore pouvait en être coupable? Le prince se gardait d'émettre aucune conjecture à ce sujet. Quant aux lettres N, P, H, B, il n'y voyait qu'un innocent badinage, une espièglerie enfantine, et il se fut reproché presque comme une malhonnêteté d'attacher quelque importance à cela. Du reste, le lendemain de la fatale soirée dont il faisait si amèrement son mea culpa, Mushkin eut dans la matinée le plaisir de recevoir chez lui le prince Tch avec Adélaïde. Il venait en passant, surtout pour s'informer de sa santé. Ils étaient en promenade à 2. Un instant auparavant, Adélaïde avait remarqué dans le parc un vieil arbre, fort pittoresque, avec son tronc lézardé et son feuillage toujours jeune. Elle voulait absolument le dessiner, absolument, si bien qu'elle ne parla guère d'autre chose pendant la demi-heure que dura sa visite. Le prince Tch se montra poli et aimable comme de coutume. Il mit la conversation sur des faits déjà anciens, rappela les circonstances de sa première rencontre avec le prince Léon Nikolaïevitch. Bref, il fut à peine question de la soirée précédente. À la fin, Adélaïde n'y put tenir et avoua en souriant qu'ils étaient venus incognito. Elle n'en dit pas plus, mais cet incognito donnait à supposer que les parents, c'est-à-dire surtout Élisabeth Prokofievna, étaient toujours mal disposés à l'égard du prince. Durant leur visite, les fiancés ne soufflèrent mot ni de la générale, ni d'Aglaé, ni même d'Ivan Fedorovitch. Quand ils prirent congé de Mushkin pour continuer leur promenade, ils ne l'engagèrent pas à se joindre à eux, pas plus qu'ils ne l'invitèrent à venir les voir. À ce propos, Adélaïde laissa même échapper un petit mot très caractéristique. En parlant d'une de ses aquarelles, la jeune fille témoigna soudain un vif désir de la montrer au prince. « Comment faire pour que vous l'ayez sans retard ?»« Attendez, je vous l'enverrai aujourd'hui par Colia, s'il vient nous voir. Ou bien demain, en faisant ma promenade avec le prince, je passerai encore chez vous et je vous l'apporterai moi-même. » décida-t-elle, enchantée d'avoir trouvé ce joint. Enfin, au moment où les visiteurs allaient se retirer, le prince Tch parut se rappeler tout à coup quelque chose. « Ah oui » demanda-t-il. « Ne savez-vous pas, cher Léon Nikolaïevitch, ce que c'était que cette personne qui, hier en calèche, a interpellé à haute voix Eugène Pavlitch ?» C'était Nastasia Philippovna, dit Mushkin. Est-ce que vous ne le saviez pas encore? mais je ne sais qui était avec elle. « Je le sais, j'étais présent !» reprit le prince Tch. « Mais que signifiaient ces paroles ? J'avoue que c'est pour moi une telle énigme, pour moi et pour d'autres. » En prononçant ces mots, il avait l'air fort intrigué. « Elle a parlé de certaines lettres de change d'Eugène Pavlovitch, que sur sa demande à elle, Rogojine a racheté à un usurier, » répondit très simplement le prince. « Et elle a dit que Rogojine accorderait du temps à Eugène Pavlitch. » « je l'ai entendu, mon cher prince. Mais cela ne peut pas être vrai. Il est impossible qu'Eugène Pavlitch ait fait des lettres de change. Riche comme il l'est. Jadis, à la vérité, par suite de son étourderie, il lui est arrivé d'avoir des embarras d'argent. Et moi-même je l'ai quelquefois tiré d'affaire. Mais que, dans sa position de fortune, il ait souscrit des lettres de change à un usurier et qu'il en soit inquiet, c'est inadmissible. Il ne peut pas non plus être à tu et à toi avec Nastasia Philippovna. Voilà où gît le principal problème. Il jure qu'il n'y comprend rien, et je le crois parfaitement. Mais je voulais vous demander, cher prince, si vous ne saviez pas quelque chose. Je veux dire, si, par miracle, un bruit ne serait pas arrivé jusqu'à vous. Non, je ne sais rien, et je vous assure que je n'ai pris aucune part à cela. Ah, prince, sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui? Je ne vous reconnais pas, positivement. Est-ce que je pouvais vous supposer complice d'une pareille chose? Allons, vous n'êtes pas dans votre assiette aujourd'hui. Il embrassa Mushkine. Complice d'une pareille chose? Que voulez-vous dire? Je ne vois pas là une pareille chose. Sans doute cette personne a voulu nuire à Eugène Pavlitch en lui prêtant devant témoin des qualités qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas avoir, répondit assez sèchement le prince Tch. Le prince Léon Nikolaïevitch se troubla. Toutefois, il n'en continua pas moins à regarder fixement son interlocuteur, comme pour lui demander l'explication de ses paroles. Mais le prince Tch se tut. « Alors, il ne s'agit pas simplement de lettres de change? Ce n'est pas littéralement ce qui a été dit hier ?» murmura enfin Mushkine, pris d'une certaine impatience. « Mais je vous le répète, jugez vous-même. Qu'est-ce que Eugène Pavlitch peut avoir de commun avec elle et par-dessus le marché avec Rogojine? Encore une fois, il est extrêmement riche. Je connais fort bien sa fortune. De plus, il a en perspective l'héritage de son oncle. Nastasia Philippovna a tout simplement... » Le visiteur s'interrompit soudain. Évidemment, il ne voulait pas s'entretenir de Nastasia Philippovna avec le prince Léon Nikolaïevitch. « En tout cas, cela prouve qu'elle le connaît, » fit celui-ci après une minute de silence. « Ils ont pu se connaître autrefois. Eugène Pavlitch est un homme léger. Mais s'ils se sont connus, c'est fort ancien, cela doit remonter à 2 ou 3 ans. À cette époque-là, il voyait Totski. Pas plus maintenant qu'alors, il ne peut s'être trouvé avec elle dans des relations de nature à autoriser le tutoiement. Vous savez vous-même qu'elle n'était pas ici. Elle avait disparu. Beaucoup de gens ignorent encore son retour parmi nous. Il n'y a pas plus de 3 jours que j'ai aperçu son équipage. « Un superbe équipage !» observa Adélaïde. « Oui, c'est un équipage superbe. » Du reste, ils se séparèrent du prince Léon Nikolaïevitch dans les sentiments les plus affectueux, on pourrait même dire les plus fraternels. Leur départ laissa notre héros fort soucieux. Certes, depuis la nuit précédente, et peut-être depuis plus longtemps encore, lui-même soupçonnait plusieurs choses. Mais jusqu'à cette visite, il ne s'était pas pleinement assuré de ce qu'il pouvait y avoir de fondé dans ses craintes. Or, le prince Tch venait de les confirmer. Sans doute il se trompait dans l'interprétation du fait, mais, en somme, il errait autour de la vérité. Il avait deviné là une intrigue. Du reste, pensait Mushkin. Peut-être, au fond, comprend-il très bien ce qu'il en est, et n'a-t-il émis une explication erronée que pour me donner le change ? Un point hors de doute, c'est qu'ils étaient maintenant passés chez lui. Le prince Tch, du moins, dans l'espoir d'obtenir des éclaircissements. S'il en était ainsi, c'est qu'il le croyait directement mêlé à l'intrigue. En outre, si tout cela avait réellement tant d'importance, c'est donc qu'elle poursuivait un but terrible. Quel but ? Cette question épouvantait le prince. Mais comment l'arrêter ? Quand elle s'est décidée à une chose, on ne peut pas l'empêcher de la mettre à exécution. Il savait déjà cela par expérience. Elle est folle ! Folle ! Mais durant cette soirée, se produisirent encore beaucoup d'autres circonstances énigmatiques qui toutes demandaient à être éclaircies sans délai. Aussi le prince était-il très chagrin. La visite de Viera Lebedev lui procura un peu de distraction. Elle vint chez lui avec Lubotchka et l'entretint gaiement de diverses choses. Après Viera arriva sa jeune sœur, puis le fils de Lebedev qui suivait les cours du gymnase. Il assura que, d'après l'interprétation de son père, l'étoile absinthe, qui, dans l'Apocalypse, tombe sur les sources des eaux, figurait le réseau des chemins de fer répandus sur la surface de l'Europe. Le prince ne voulut pas croire que telle fût l'explication de Lebedev. On décida qu'on le lui demanderait à lui-même à la première occasion. Viera apprit au prince que, depuis la veille, Keller s'était installé chez eux, et que, selon toute apparence, il ne les quitterait pas de sitôt, parce qu'il avait trouvé là une société et s'était lié avec le général Ivolgin. Du reste, il avait déclaré qu'il venait séjourner chez eux uniquement pour compléter son instruction. De jour en jour, le prince se plaisait davantage avec les enfants de Lebedev. Kolia ne se montra pas de toute la journée. Il s'était rendu de grand matin à Pétersbourg. Lebedev, appelé au dehors pour ses petites affaires, était sorti aussi de très bonne heure. Mais le prince attendait avec impatience la visite de Gabriel Ardalionovitch, qui s'était formellement engagé à l'aller voir aujourd'hui. Il arriva vers 7 heures de l'après-midi, aussitôt après le dîner. Au premier regard jeté sur lui, le prince se dit que ce monsieur, du moins, devait connaître tous les tenants et aboutissants de l'affaire. Et comment ne les aurait-il pas connus, lui qui pouvait se renseigner auprès de gens toujours aussi bien informés que Barbara Ardalionovna et Ptitsin. Mais les relations que les deux hommes avaient ensemble étaient d'une nature assez particulière. Par exemple, le prince avait remis l'affaire de Bourdovski entre les mains de Gabriel Ardalionovitch, et cette marque de confiance n'était pas la seule qu'il lui eût donnée. Néanmoins, il existait toujours certains points dont, par une sorte d'accord tacite, ils évitaient de parler entre eux. Parfois, il semblait au prince que Gania aurait peut-être désiré plus de franchise et de cordialité dans leurs rapports. Maintenant, par exemple, à ce que Mushkin crut remarquer quand il vit entrer le jeune homme, celui-ci paraissait convaincu que le moment de rompre la glace était arrivé. Gabriel Ardalionovitch était pressé pourtant. Sa sœur l'attendait chez les Lebedev. Tous deux avaient à s'occuper d'une affaire urgente. Mais si Gania avait compté sur toute une série de questions impatientes, de confidences involontaires, d'épanchements amicaux, il s'était singulièrement trompé. Durant les 20 minutes que le visiteur passa chez lui, le prince resta pensif, presque distrait, et ne fit pas une des questions auxquelles Gania s'attendait. Ce que voyant, celui-ci résolut de se tenir à son tour sur une grande réserve. Tant que dura sa visite, il parla sans discontinuer, bavarda gaiement, avec légèreté, avec grâce, mais s'abstint de toucher au point principal. Entre autres choses, Gania raconta que Nastasia Philipovna n'était que depuis 4 jours à Pavlovsk et que déjà elle avait attiré l'attention générale. Elle demeurait chez Daria Alexievna, dans une vilaine petite maison de la rue des Matelots, mais elle avait peut-être le plus bel équipage de Pavlovsk. Autour d'elle s'était déjà groupée toute une foule de soupirants, jeunes et vieux. Parfois, des cavaliers escortaient sa calèche. Nastasia Philipovna était, comme auparavant, fort difficile dans le choix de ses relations et ne recevait que des visiteurs triés sur le volet. Cela ne l'empêchait pas d'avoir un nombreux entourage sur qui elle pouvait compter en cas de besoin. À cause d'elle, un monsieur en villégiature à Pavlovsk avait rompu avec sa fiancée et un vieux général avait presque maudit son fils. Quand elle faisait une promenade en voiture, elle prenait souvent avec elle une charmante fillette de 16 ans, parente éloignée de Daria Alexievna. Cette jeune fille chantait fort bien, et son talent de musicienne avait donné de la notoriété à la petite maison de la rue des Matelots. Du reste, Nastasia Philipovna se tenait très convenablement. Elle s'habillait sans luxe, mais avec un goût dont toutes les dames étaient jalouses, aussi bien que de sa beauté et de son équipage. L'excentrique incident d'hier a été sans doute prémédité, et naturellement ne doit pas entrer en ligne de compte. Pour trouver à redire à sa conduite, il faudrait l'espionner exprès ou la calomnier, ce qui du reste ne tardera pas. Acheva Gabriel Ardalionovitch, présumant que son interlocuteur ne manquerait pas de lui demander pourquoi il appelait l'incident d'hier un incident prémédité, et pourquoi on ne tarderait pas à calomnier Nastasia Philipovna. Mais le prince ne fit aucune question de ce genre. Ce fut spontanément aussi, sans attendre qu'on l'interrogeât, et même avec un empressement étrange, que Gania s'étendit sur le chapitre d'Eugène Pavlovitch. Dans son opinion, ce dernier ne connaissait guère Nastasia Philipovna que pour lui avoir été présenté par quelqu'un sur la promenade 4 jours auparavant. Tout au plus était-il allé une fois chez elle avec les autres visiteurs de la jeune femme. Quant aux lettres de change, elles n'avaient rien d'impossible. Eugène Pavlovitch possédait une grande fortune, sans doute, mais il y avait un certain désordre dans ses affaires. Sur ce curieux sujet, Gania tourna court. En ce qui concernait l'incartade commise la veille par Nastasia Philipovna, il se borna à y faire allusion dans la phrase rapportée plus haut. À la fin, Barbara Ardalionovna vint chercher son frère et elle resta une petite minute chez le prince. Sans que celui-ci essayât de la faire parler, elle lui apprit que Eugène Pavlovitch passerait à Pétersbourg toute la journée d'aujourd'hui et peut-être encore celle de demain, que son mari, Ivan Petrovitch Ptidzin, s'y trouvait aussi, et qu'il y était probablement allé pour les affaires de Eugène Pavlovitch. « Elisabeth Prokofievna est aujourd'hui d'une humeur d'enfer, » ajouta-t-elle en sortant. Mais le plus singulier, c'est qu'Aglaé s'est fâchée avec toute sa famille, non seulement avec son père et sa mère, mais même avec ses 2 sœurs. Tout cela n'est pas beau. Après avoir donné, comme par hasard, cette dernière nouvelle, qui pour le prince était extrêmement significative, Barbara Ardalionovna se retira avec son frère. Quant à l'affaire du fils de Pavlitchev, Ganetchka n'en dit pas mot, peut-être par fausse modestie, peut-être aussi pour ménager les sentiments du prince. Ce dernier, néanmoins, le remercia encore une fois de toutes les peines qu'il s'était données dans cette circonstance. Fort content de se retrouver enfin seul, le prince quitta la terrasse, traversa la rue et entra dans le parc. Il voulait ruminer un projet dont l'idée venait de s'offrir à son esprit. Mais ce projet était de ceux qu'il faut exécuter d'entraînement, parce qu'il ne résiste pas à la réflexion. Le prince s'était senti soudain un immense désir d'abandonner tout cela, de retourner là-bas d'où il était venu, de s'enfoncer dans quelque solitude lointaine. Bref, de disparaître à l'instant, sans même dire adieu à personne. Il prévoyait que s'il retardait son départ, ne fût-ce que de quelques jours, il resterait définitivement empêtré dans ce monde et ne pourrait plus jamais s'en dégager. Mais il ne lui fallut pas 10 minutes pour reconnaître que la fuite était impossible, que ce serait presque une lâcheté, que devant lui se posaient des problèmes dont il n'avait même plus le droit maintenant d'esquiver la solution. En s'entretenant de ses pensées, il revint chez lui après une promenade d'un quart d'heure à peine. Il était vraiment malheureux en ce moment. Lebedev n'était pas encore rentré, de sorte que, vers le soir, Keller réussit à pénétrer chez le prince. Quoique l'ancien sous-lieutenant ne fût pas ivre, il se trouvait en veine d'épanchements et de confidences. Il déclara tout d'abord qu'il venait raconter au prince toute sa vie et qu'il n'était resté à Pavlovsk que pour cela. Il n'y avait pas moyen de le mettre à la porte. Pour rien au monde, il ne serait parti. Keller s'était disposé à faire un long discours, mais après quelques mots incohérents, prononcés en manière de préambule, il sauta à la conclusion. Ayant cessé de croire au Très-Haut, il avait perdu tout vestige de moralité, à ce point qu'il s'était rendu coupable de vol. « Pouvez-vous vous représenter cela ?»« Écoutez, Keller, moi, à votre place, je n'avouerais pas cela sans une absolue nécessité, » répondit le prince. « Mais du reste, vous vous calomniez peut-être à dessein. » Je ne dis cela qu'à vous, à vous seul, et uniquement pour aider à mon développement. Je ne l'ai dit et ne le dirai à aucun autre. Quand je mourrai, j'emporterai avec moi ce secret dans la tombe. Mais, prince, si vous saviez, si seulement vous saviez combien il est difficile à notre époque de se procurer de l'argent, ou en prendre, permettez-moi de vous le demander. La réponse est partout la même. Apporte-nous de l'or et des diamants, là-dessus nous te prêterons. C'est-à-dire justement ce que je n'ai pas. Pouvez-vous vous représenter cela ? À la fin, je me fâchais. Et sur des émeraudes, dis-je, est-ce que vous me prêterez ?
Sur des émeraudes, répondit l'homme.
Oui, encore. Eh bien, repris-je, voilà qui est parfait. Je pris mon chapeau et je sortis. Que le diable vous emporte, tas de coquins !
Mais est-ce que vous aviez des émeraudes ?
Moi, avoir des émeraudes ? Oh, prince ! Avec quelle sérénité naïve, pastorale même, on peut le dire, vous considérez encore la vie.
Ne pourrait-on pas faire quelque chose de cet homme en le soumettant à une bonne influence ? Se demandait le prince, qui commençait à éprouver une sorte de pitié pour son visiteur. Quant à son influence personnelle, il croyait qu'elle ne valait rien du tout, et il en jugeait ainsi, non par humilité, mais parce qu'il avait une façon un peu spéciale de voir les choses. Insensiblement, la conversation s'anima, et elle devint si intéressante que ni l'un ni l'autre ne pensa à y mettre fin. Keller confessait, avec un empressement extraordinaire, des actes dont il semblait qu'aucun homme n'eût pu se résoudre à faire l'aveu. Chaque fois qu'il commençait un récit, il protestait de son repentir, et assurait qu'intérieurement il était plein de larmes. Mais, en racontant son méfait, il avait l'air de s'en vanter. Parfois aussi, il le narrait d'une façon si comique que le prince et lui finissaient par rire comme deux fous. Le grand point, c'est qu'il y a en vous une confiance enfantine et une véracité extraordinaire, dit enfin le prince. « Savez-vous que cela seul rachète déjà bien des choses ?»«
Je suis noble, noble, chevaleresquement noble !» confirma Keller attendri. « Mais vous savez, prince, toute cette noblesse n'existe qu'en rêve, à l'état d'aspiration, pour ainsi dire. Elle ne se montre jamais dans la pratique. Pourquoi cela ? Je ne puis le comprendre. »
« Ne vous désespérez pas. À présent, on peut dire, sans crainte de se tromper, que vous m'avez fait connaître par le menu toute votre existence. Du moins, il me semble qu'il est impossible de rien ajouter à ce que vous m'avez raconté, ne le croyez-vous pas ?»« Impossible ? » s'écria d'un air de pitié l'ancien sous-lieutenant. « Oh, prince, jusqu'à quel point vous êtes resté suisse dans votre compréhension de l'homme ?»« Vraiment ? On peut encore y ajouter quelque chose ?» demanda le prince avec un étonnement timide. « Eh bien, qu'est-ce que vous attendiez de moi, Keller ? Parlez, je vous prie, pourquoi êtes-vous venu me faire votre confession ?»« Ce que j'attendais de vous, d'abord, rien que votre bonhomie est déjà agréable à contempler. C'est un plaisir que de causer avec vous. Je sais, du moins, que j'ai devant moi un personnage très vertueux, et ensuite... » Il semblait embarrassé. Voyant qu'il hésitait à continuer, le prince vint à son secours. « Vous vouliez peut-être m'emprunter de l'argent ?» Ces mots furent dits très simplement, d'un ton sérieux, et même quelque peu timide. Keller tressaillit. Il fixa brusquement un regard étonné sur le visage du prince et déchargea un grand coup de poing sur la table. « Eh bien, prince, voilà ce qui me renverse, ce qui me déroute complètement. Vous êtes d'une bonhomie, d'une innocence que l'âge d'or lui-même n'a pas connue. Et en même temps, vous lisez dans l'âme des gens comme le plus perspicace des psychologues. Mais permettez, prince, cela a besoin d'explication, parce que je... décidément, je m'y perds. Bien entendu, mon but, en fin de compte, était de vous emprunter de l'argent. Mais vous m'avez fait cette question comme si vous ne trouviez là rien de répréhensible, comme si cela vous paraissait tout naturel. Oui, de votre part, c'est tout naturel. Et vous n'êtes pas révolté ? Mais pourquoi donc le serais-je ? Écoutez, prince, je demeure ici depuis hier soir. D'abord parce que j'ai une estime particulière pour l'archevêque français Bourdaloue. Je l'ai savouré chez les Bédèves jusqu'à 3 heures. Ensuite, et surtout, je vous jure par tout ce que j'ai de plus sacré que je vous dis la vérité la plus pure. Je suis resté parce que je voulais, pour ainsi dire, en vous faisant ma confession franche et complète, aider par cela même à mon propre développement. Telle était ma pensée, et je fondais en larmes vers 4 heures lorsque je me suis endormi. Croirez-vous maintenant à la parole d'un homme très noble ? Au moment où je m'assoupissais, sincèrement rempli de larmes intérieures, et pour ainsi dire extérieures, car j'avais fini par sangloter, je m'en souviens, il m'est venu à l'esprit une idée infernale. Au bout du compte, si, après ma confession, je lui empruntais de l'argent. Cette confession a donc été un truc destiné à vous monter le coup. Je voulais, par ce moyen, m'insinuer dans vos bonnes grâces pour vous taper ensuite de 150 roubles. N'est-ce pas une bassesse, selon vous ? Ce que vous dites n'est pas exact. L'un s'est mêlé à l'autre. Voilà tout. Les deux idées se sont confondues, ce qui a lieu très fréquemment. La même chose m'arrive sans cesse. Du reste, je trouve que cela ne vaut rien, et vous savez, Keller, c'est ce que je me reproche le plus. Quand vous parliez tout à l'heure, il me semblait entendre ma propre histoire. Parfois même j'ai pensé que tous les hommes étaient ainsi, continua le prince, pour qui ce sujet de conversation paraissait être d'un profond intérêt. Et cela me consolait un peu, car il est extrêmement difficile de lutter contre ces idées mixtes. J'ai essayé. Dieu sait comment elles prennent naissance. Et voilà que vous appelez carrément cela une bassesse. À présent, je vais recommencer à avoir peur de ces idées. En tout cas, je ne suis pas votre juge. Mais, à mon avis, c'est aller trop loin que de donner à cela le nom de bassesse. Qu'en pensez-vous ? Vous avez usé de ruse pour m'emprunter de l'argent, mais vous-même jurez qu'indépendamment du motif pécuniaire, votre confession avait aussi un but noble. Quant à l'argent, vous en avez besoin pour bambocher, n'est-ce pas ? Et après votre confession, cela naturellement est une lâcheté. Mais aussi, comment renoncer en un instant à l'habitude de boire? C'est impossible. Que faire donc? Le mieux est de laisser cela à l'appréciation de votre conscience. Que vous en semble? Le prince considérait Keller avec une extrême curiosité. Évidemment, la question des idées mixtes le préoccupait depuis longtemps déjà. « Eh bien, comment après cela vous appelle-t-on idiot? Je ne le comprends pas !» s'écria le boxeur. Le prince rougit un peu. Le prédicateur Bourdaloue n'aurait pas épargné l'homme. Et vous, vous l'avez épargné, vous m'avez jugé humainement. Pour me punir et vous prouver que je suis touché, je n'accepterai pas 150 roubles. Donnez-moi seulement 25, cela suffira. C'est tout ce qu'il me faut, du moins pour 2 semaines. Je ne viendrai pas vous demander de l'argent avant 15 jours. Je voulais faire un cadeau à Agashka, mais elle ne le mérite pas. Oh, cher prince, que le Seigneur vous bénisse !» Entra Lebedev, qui arrivait de Pétersbourg. La vue d'un billet de 25 roubles dans les mains de Keller lui fit froncer le sourcil. Mais le boxeur, se trouvant en fond, ne tarda pas à disparaître. Dès qu'il fut sorti, Lebedev se mit à le débiner. « Vous êtes injuste. Son repentir était vraiment sincère, » observa enfin le prince. « Mais qu'est-ce que c'est que ce repentir? C'est exactement comme moi hier. Je suis bas, je suis bas. Ce sont des mots, pas autre chose. » « Ainsi, de votre part, ce n'était que des mots. Je pensais, au contraire. « Eh bien, tenez, à vous seul, je dirai la vérité, parce que vous pénétrez l'homme. Les paroles et le fait, le mensonge et la vérité. Chez moi, tout cela se mêle, et tout cela est parfaitement sincère. La vérité, le fait, c'est que j'éprouve un sincère repentir, croyez-le, ne le croyez pas, je vous le jure. Mais les paroles et les mensonges me sont dictées par une pensée infernale, et toujours présente, l'idée d'attraper les gens et d'utiliser mes larmes de repentir. Oui, je vous l'assure. À un autre, je ne le dirai pas. Il rirait ou il cracherait. Mais vous, prince, vous jugez humainement. Eh bien, voilà mot pour mot ce qu'il m'a dit aussi tout à l'heure, s'écria le prince. Et vous avez tous les deux l'air de vous vanter. Vous m'étonnez même. Seulement, il est plus sincère que vous, car vous faites de cela un véritable métier. Allons, assez. Ne prenez pas cette expression désolée, Lebedev, et ne mettez pas la main sur votre cœur. Est-ce que vous ne me direz pas quelque chose? Vous n'êtes pas venu pour rien. Lebedev se mit à grimacer. Je vous ai attendu toute la journée pour vous poser une question. Une fois au moins dans votre vie, répondez la vérité de prime abord. « Avez-vous pris une part quelconque hier à l'incident de la calèche ?» Nouvelle grimace de Lebedev. Il commença à rire, à se frotter les mains, à éternuer, mais toujours sans proférer un seul mot de réponse. « Je vois que vous y avez pris part. »« Mais indirectement, rien qu'indirectement, je dis la pure vérité. » Je me suis borné à faire savoir en temps utile à une certaine personne que telle société était réunie chez moi et qu'il s'y trouvait certains personnages. Je sais que vous avez envoyé votre fils là. Il me l'a dit lui-même tantôt. Mais qu'est-ce que c'est que cette intrigue? S'écria le prince impatienté. Ce n'est pas moi qui l'ai ourdi, ce n'est pas moi! Reprit Lebedev en agitant le bras comme pour repousser quelque chose. « Elle a été machinée par d'autres, et à proprement parler, c'est plutôt une fantaisie qu'une intrigue. »« Mais de quoi s'agit-il donc? Expliquez-le-moi pour l'amour du Christ. Se peut-il que vous ne compreniez pas combien cette affaire me touche? Dans le fait, on noircit Eugène Pavlovitch. » Le visage de Lebedev se contracta de nouveau. « Prince, excellentissime prince, vous ne me laissez pas dire toute la vérité. J'ai déjà essayé de vous la faire connaître. Plus d'une fois j'ai commencé, mais vous ne m'avez pas permis de continuer. Le prince ne répondit pas et resta pensif. Évidemment, une violente lutte se livrait en lui. « Allons, c'est bien, dites la vérité » articula-t-il péniblement. « Aglaé Ivanovna !» commença aussitôt Lebedev. « Taisez-vous, taisez-vous !» cria avec colère le prince devenu tout rouge d'indignation et peut-être aussi de honte. « C'est impossible, tout cela est absurde. Tout cela a été inventé par vous-même ou par d'autres fous de votre espèce et que plus jamais je ne vous entende dire un mot à ce sujet. » Il était plus de 10 heures du soir lorsque Kolia arriva avec un tas de nouvelles, les unes de Pétersbourg, les autres de Pavlovsk. Les premières avaient trait surtout à Hippolyte et à l'histoire de la veille. Il les raconta en gros, se réservant d'y revenir plus tard, et se hâta de passer aux nouvelles de Pavlovsk. Il y avait 3 heures que Kolia était revenu de Pétersbourg, et avant de se rendre chez le prince, il avait commencé par aller chez les Epanchin. « C'est terrible ce qu'il y a là !» Bien entendu, au premier plan figurait la calèche. Mais il était certainement arrivé quelque autre chose encore que ni lui ni le prince ne connaissaient. « Naturellement, je n'ai pas espionné, je n'ai voulu interroger personne. Du reste, on m'a bien reçu, si bien même que j'en ai été étonné. Mais de vous, prince, pas un mot. » Le plus important, c'était que tantôt Aglaé s'était fâché avec les siens au sujet de Gania. Kolia ignorait les détails de l'affaire. Il savait seulement que c'était à cause de Gania. Imaginez-vous cela. La querelle avait été très violente. Par conséquent, elle devait avoir un motif grave. Le général était arrivé tard, il avait l'air maussade. Eugène Pavlovitch, qui l'accompagnait, avait été parfaitement accueilli. Lui-même s'était montré étonnamment gai et aimable. Mais la nouvelle capitale, c'était que, sans faire d'esclandre, Elisabeth Prokofievna avait mandé auprès d'elle Barbara Ardalionovna, qui se trouvait alors avec les demoiselles, et lui avait interdit une fois pour toutes l'accès de sa maison. Du reste, elle a formulé cette défense de la façon la plus polie, au dire de ma sœur elle-même, ajouta Kolia. Mais quand Varia était sortie de chez la générale et avait pris congé des demoiselles, celle-ci ne savait même pas qu'elle leur disait adieu pour la dernière fois et qu'il lui était interdit de remettre désormais les pieds dans la maison. Mais Barbara Ardalionovna est venue chez moi à 7 heures, fit le prince surpris. Et c'est vers les 8 heures qu'elle a reçu son congé. Je plains fort Varia, je plains Gania. Sans doute, ils sont continuellement occupés d'intrigues, ils ne pourraient pas vivre sans cela. Et jamais je n'ai pu savoir ce qu'ils trament. Du reste, je n'y tiens pas. Mais je vous assure, mon bon, mon cher prince, que Gania a du cœur. Assurément, sous beaucoup de rapports, c'est un homme corrompu, mais il y a en lui des qualités qu'il suffit de chercher pour les découvrir. Et jamais je ne me pardonnerai de l'avoir méconnu autrefois. Je ne sais pas si je puis continuer à voir les Epanchin après l'histoire qui vient d'arriver à Varia. À la vérité, dès le début, je me suis mis sur un pied d'indépendance complète. Mais n'importe, c'est une question à examiner. Vous avez tort de tant plaindre votre frère, observa le prince. Si les choses en sont venues là, c'est que Gabriel Ardalionovitch est dangereux aux yeux d'Elisabeth Prokofievna, et que par conséquent, ses espérances sont en voie de se réaliser. « Comment ? Quelles espérances ? » fit avec étonnement Kolia. « Pensez-vous par hasard qu'Aglaé... Ce n'est pas possible !» Le prince garda le silence. « Vous êtes un terrible sceptique, prince !» reprit Kolia au bout de 2 minutes. « Je remarque que depuis quelque temps, vous devenez extraordinairement sceptique. Vous commencez à ne plus croire en rien et à faire des suppositions à propos de tout. Mais ai-je employé avec justesse ici le mot « sceptique »?» Je crois que oui. Quoique, du reste, je n'en sois pas bien sûr moi-même.
Non, je retire le mot sceptique. J'ai trouvé une nouvelle explication, cria tout à coup Kolia.
Vous n'êtes pas sceptique, mais jaloux. Les sentiments de Gania pour certaines fières demoiselles vous causent une jalousie infernale.
En parlant ainsi, Kolia s'était levé brusquement et riait comme peut-être il n'avait jamais ri de sa vie. La rougeur qui couvrait le visage de Mushkin accrut encore la gaieté du gymnasiste. Il s'amusait énormément de l'idée que le prince était jaloux d'Aglaé. Mais son hilarité cessa, sitôt qu'il eut remarqué que celui-ci éprouvait un vrai chagrin. Ensuite, eut lieu entre eux une conversation très sérieuse qui se prolongea pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Le lendemain, une affaire urgente obligea le prince à aller passer une partie de la journée à Pétersbourg. Entre 4 et 5 heures, au moment où il se disposait à reprendre le train pour Pavlovsk, il rencontra dans la gare Ivan Fedorovitch. Celui-ci saisit vivement le prince par le bras, puis, après avoir regardé partout d'un air inquiet, il le fit monter avec lui dans un wagon de première classe. Le général voulait avoir Mushkin pour compagnon de route, désireux qu'il était de l'entretenir de choses importantes. « D'abord, cher prince, ne sois pas fâché contre moi, et si tu as quelque chose à me reprocher, oublie-le. Moi-même, je serais déjà allé te voir hier, mais je ne savais pas comment Elisabeth Prokofievna aurait pris cela. Chez moi, c'est positivement un enfer. Un sphinx énigmatique y a élu domicile. Moi, je m'en vais, je n'y comprends rien. Mais pour ce qui est de toi, tu es, à mon avis, moins coupable qu'aucun de nous. Quoique, sans doute, tu aies contribué à amener bien des choses. Vois-tu, prince, il est agréable d'être philanthrope, mais il ne faut pas l'être trop. Toi-même, tu es peut-être déjà payé pour le savoir. Assurément, j'aime la bonté, et j'estime Elisabeth Prokofievna, mais... Le général parla de la sorte longtemps encore, mais il y avait beaucoup d'incohérences dans ses paroles. On voyait qu'il était extrêmement troublé par quelque chose de tout à fait incompréhensible pour lui. À la fin, il s'exprima plus nettement. « Pour moi, il est hors de doute que tu n'as pris aucune part à cela. Mais ne viens pas nous voir d'ici à quelque temps, je te le demande en ami. Attends que le vent ait changé. » Pour ce qui concerne Eugène Pavlovitch, poursuivit-il avec une chaleur extraordinaire, tout cela est une calomnie absurde, la calomnie des calomnies. C'est une imposture, il y a là une intrigue, le désir de tout culbuter et d'amener une brouille entre nous. Vois-tu, prince, je te le dis à l'oreille, entre nous et Eugène Pavlovitch, il n'a pas encore été dit un seul mot, tu comprends? Nous ne sommes liés par rien. Mais ce mot peut être dit, et même bientôt, et même peut-être tout de suite. Ainsi, voilà, c'est pour empêcher cela. Mais pourquoi, dans quel but, je ne le comprends pas. C'est une femme étonnante, une femme excentrique. J'ai si peur d'elle que j'en perds presque le sommeil. Et cet équipage, ces chevaux blancs, c'est vraiment chic, comme on dit en français. Qui est-ce qui l'entretient sur ce pied-là? En vérité, j'avais fait un jugement téméraire. J'avais pensé avant-hier que c'était Eugène Pavlitch. Mais il est prouvé que ce ne peut pas être lui. Eh bien, s'il en est ainsi, pourquoi veut-elle provoquer une rupture entre nous? Voilà le problème. Pour garder Eugène Pavlitch? Mais je te répète, je te jure sur la croix qu'il ne la connaît pas, et que ces lettres de change sont une invention. Et avec quelle impudence elle le tutoie à haute voix, en pleine rue. Il y a là positivement une manœuvre. Il est clair que nous devons repousser cela avec mépris et témoigner 2 fois plus d'estime à Eugène Pavlitch. C'est dans ce sens que j'ai parlé à Elisabeth Prokofievna. Maintenant,
je vais te dire ma pensée intime. Je suis fermement persuadée qu'elle agit ainsi par rancune personnelle contre moi. Tu te rappelles, à cause du passé, quoique jamais je ne me sois donné de tort envers elle. Je rougis au seul souvenir de cela. À présent, la voilà de nouveau en vedette. Je la croyais disparue pour tout de bon. Où est donc ce Rogojin? Dites-le-moi, je vous prie. Je pensais qu'elle était depuis longtemps déjà Madame Rogojin. En un mot, Ivan Fédorovitch était très désorienté. Pendant près d'une heure que dura le voyage, il parla seul, posant des questions, y répondant lui-même, serrant la main du prince. Il convainquit du moins celui-ci qu'il ne pensait pas à le soupçonner de quoi que ce fût. C'était l'important pour Mushkin. Le général termina par quelques mots au sujet de l'oncle d'Eugène Pavlitch, qui était chef d'une chancellerie quelconque à Pétersbourg. « Il occupe un beau poste. Il a 70 ans. C'est un viveur, un gastronome, un vieillard qui n'a pas encore dételé. Je sais qu'il a entendu parler de Nastasia Philipovna et qu'il a même recherché ses faveurs. Je suis passé chez lui tantôt. Il ne reçoit pas, il est souffrant. Mais il est riche, fort riche. Il a une situation considérable. Et Dieu veuille lui conserver la vie pendant de longues années. Mais c'est encore à Eugène Pavlitch que reviendra toute cette fortune. Oui, oui. Et pourtant j'ai peur. Je ne m'explique pas pourquoi, mais j'ai peur. On dirait qu'il y a quelque chose dans l'air, un malheur qui vole comme une chauve-souris. Et j'ai peur, j'ai peur. Et enfin, le troisième jour seulement, comme nous l'avons dit plus haut, eut lieu la réconciliation formelle des Epanchin avec le prince Léon Nikolaïevitch. Chapitre 12. Il était 7 heures de l'après-midi. Le prince se disposait à aller au parc quand tout à coup il vit paraître sur sa terrasse Elisabeth Prokofievna. Elle était seule. « Premièrement, ne t'avise pas de croire, commença-t-elle, que je sois venue pour te demander pardon. Jamais de la vie. Tous les torts sont de ton côté. » Le prince resta silencieux. « Es-tu coupable, oui ou non ?»« Autant que vous. Du reste, ni vous ni moi n'avons à nous reprocher aucune mauvaise intention. Avant-hier, je me croyais coupable, mais maintenant j'ai reconnu que je me trompais. » »« Ainsi voilà comme tu es. Allons, c'est bien. Écoute et assieds-toi, parce que je n'ai pas l'intention de rester debout. » Ils s'assirent. « Secondement, pas un mot des méchants gamins. J'ai 10 minutes à passer avec toi. Je suis venu ici pour un renseignement. Tu t'imaginais peut-être Dieu sait quoi. Et si tu fais la moindre allusion à ces morveux, je me lève, je m'en vais, et c'est fini entre nous pour toujours. » « Bien, répondit le prince. Permets-moi de te faire une question. Tu as écrit, il y a 2 mois ou 2 mois et demi, aux environs de Pâques, une lettre à Aglaé. » « Oui. À quel propos? Qu'y avait-il dans cette lettre? Montre-la. » Les yeux d'Elisabeth Prokofievna étincelaient. Elle était tremblante d'impatience. « Je ne l'ai pas, répondit timidement le prince étonné. Si cette lettre n'a pas été détruite, elle est entre les mains d'Aglaé Ivanovna. Ne finasse pas. Qu'est-ce que tu lui as écrit? » Je ne finasse pas, et je ne crains rien. Je ne vois pas le motif qui m'aurait empêché d'écrire. Tais-toi, tu parleras plus tard. Qu'y avait-il dans la lettre? Pourquoi as-tu rougi? » Le prince réfléchit un moment. Je ne connais pas vos pensées, Elisabeth Prokofievna. Je vois seulement que cette lettre vous déplaît fort. Convenez que je pouvais refuser de répondre à une pareille question. Mais pour vous prouver que je ne redoute rien du fait de cette lettre, que je ne regrette pas de l'avoir écrite et que je n'en rougis nullement, Ce disant, le prince rougissait de plus en plus. « Je vais vous la réciter, car je crois que je la sais par cœur. » Là-dessus, le prince reproduisit de mémoire, et presque mot pour mot, le contenu du billet qu'il avait écrit à Aglaé. « Quel galimatia ! Qu'est-ce que peuvent signifier ces sottises, selon toi ?» demanda d'un ton sévère la générale, qui avait écouté avec une attention extraordinaire. « Je ne le sais pas bien moi-même. Tout ce que je puis dire, c'est que j'étais alors sous l'influence d'un sentiment sincère. J'ai eu là-bas des moments de vie pleine et d'espérance ardente. Quelles espérances ? Il me serait difficile de les expliquer. Seulement, ce n'était pas celle que vous supposez peut-être en ce moment. J'espérais... Eh bien, en un mot, je faisais des rêves d'avenir et de joie. Je songeais que peut-être je n'étais pas un étranger là-bas. Je me sentais tout d'un coup fort content d'être dans mon pays. Par une matinée ensoleillée, j'ai pris la plume et je lui ai écrit une lettre. Pourquoi à elle ? Je n'en sais rien. Parfois, le besoin d'un être aimé se fait sentir. J'étais évidemment dans un de ces moments-là, ajouta le prince après un silence. Tu es amoureux d'elle, n'est-ce pas ? Non, je lui ai écrit comme à une sœur. J'ai même signé « Votre frère ». Tu l'as fait à dessein, je comprends. Il m'est fort pénible de répondre à ces questions, Elisabeth Prokofievna. Je le sais, mais cela m'est tout à fait indifférent. Écoute, dis-moi la vérité comme devant Dieu. Mens-tu ou ne mens-tu pas ? Je ne mens pas. C'est bien vrai que tu n'es pas amoureux d'elle. Je crois que c'est absolument vrai. Il croit. C'est un gamin qui a remis ta lettre ? J'ai prié Nicolas Ardalionovitch. Un gamin ? Interrompit avec colère Elisabeth Prokofievna. Je ne veux pas savoir s'il y a un Nicolas Ardalionovitch. Un gamin ? Nicolas Ardalionovitch. Un gamin, te dis-je. Le prince répondit avec fermeté, sans trop élever la voix pourtant. « Non, pas un gamin, mais Nicolas Ardalionovitch. « Allons, c'est bien, mon cher, c'est bien. Je porterai cela à ton compte. » Elle s'arrêta une minute pour calmer son agitation et reprendre haleine. « Et qu'est-ce que c'est que le chevalier pauvre ?»« Je ne le sais pas du tout. Je ne suis pour rien là-dedans. C'est quelque plaisanterie. » Il est agréable d'apprendre cela tout d'un coup. Seulement, est-il possible qu'elle ait une inclination pour toi ? Elle-même te traitait d'aliéné et d'idiot. Vous auriez pu ne pas me répéter cela, observa le prince d'un ton de reproche, mais presque tout bas. Ne te fâche pas, c'est une fille volontaire, une folle, une enfant gâtée. Si tel est son bon plaisir, elle ne se gênera pas pour insulter les gens tout haut et se moquer d'eux à leur nez. J'étais tout à fait comme elle à son âge. Seulement, je t'en prie, ne triomphe pas, mon cher. Elle n'est pas à toi. Je ne veux pas croire cela. Et jamais elle ne le sera. Je te le dis pour que tu prennes tes mesures dès maintenant. Écoute, jure-moi que tu n'es pas mariée à celle-là. Le prince faillit bondir d'étonnement. « Elisabeth Prokofievna, qu'est-ce que vous dites ?»« Mais tu as été sur le point de l'épouser. »« J'ai été sur le point de l'épouser, » murmura-t-il en baissant la tête. « Eh bien, tu es amoureux d'elle, s'il en est ainsi. C'est pour elle que tu t'es rendu ici, pour celle-là ?»« Je ne suis pas venu pour me marier, » répondit le prince. « Y a-t-il pour toi quelque chose de sacré au monde ?»« Oui. » Jure que tu n'es pas venu pour épouser celle-là. Je le jure, par tout ce que vous voudrez. Je te crois, embrasse-moi. Enfin, je respire librement. Mais sache qu'Aglaé ne t'aime pas, avise en conséquence. Elle ne t'épousera pas, tant que je serai au monde. Tu as entendu ? Oui. Le prince était si confus qu'il ne pouvait regarder en face Elisabeth Prokofievna. Prends-en note. Je t'attendais comme une providence. Tu ne le méritais pas. La nuit, j'arrosais mon oreiller de mes larmes. Pas à cause de toi, mon cher, sois tranquille. J'ai un autre chagrin, un chagrin éternel et toujours le même. Mais voici pourquoi je t'attendais avec une telle impatience. Je continue à croire que Dieu lui-même t'a envoyé à moi, comme un ami et comme un frère. Je ne vois personne, excepté la vieille Bielokonski, et elle n'est plus ici. D'ailleurs, elle est devenue bête comme un mouton par suite de son grand âge. Maintenant, réponds-moi simplement par oui ou par non. Sais-tu pourquoi elle a fait cette esclandre avant-hier? Je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai pris aucune part à cela et que je ne sais rien.
Assez, je te crois. Maintenant, moi aussi, j'ai changé d'idée à ce sujet. Mais jusqu'à hier matin, j'accusais de tout Eugène Pavlitch. À présent, sans doute, je ne puis pas ne pas être de leur avis. Il est de toute évidence qu'on l'a rendu victime d'une fumisterie. Pourquoi, dans quel but, cela seul reste louche et prête à de vilains soupçons. En tout cas, il n'épousera pas Aglaé, c'est moi qui te le dis. Qu'il soit un homme comme il faut, c'est possible, mais peu importe. Jusqu'à présent, j'étais irrésolue, maintenant mon parti est pris. Commencez par me mettre dans un cercueil et par m'enterrer. Après cela, vous marierez votre fille. Voilà ce que j'ai déclaré aujourd'hui à Ivan Fédorovitch. Tu vois quelle confiance j'ai en toi. Tu le vois?
Oui, et je l'apprécie.
Elisabeth Prokofievna attacha sur le prince un regard sondeur. Peut-être aurait-elle voulu découvrir l'effet qu'avait produit sur lui la communication relative à Eugène Pavlitch.
Tu ne sais rien de Gabriel Ivolgin?
C'est-à-dire, je sais beaucoup de choses.
Savais-tu qu'il est en relation avec Aglaé?
Cette nouvelle causa au prince une profonde stupéfaction. Il frissonna même.
Je l'ignorais complètement, répondit-il.
Comment? Vous dites que Gabriel Ardalionovitch est en relation avec Aglaé Ivanovna?
C'est impossible.
Depuis très peu de temps. Sa sœur lui a frayé la voie tout l'hiver par un travail de taupe.
Je ne le crois pas,
reprit avec force le prince, qui était resté un moment songeur.
Si cela était, je le saurais certainement.
Tu penses sans doute que lui-même serait venu te l'avouer en pleurant et en se pressant contre ta poitrine? Faut-il que tu sois bené? Ils te trompent tous comme...
Et tu n'es pas honteux d'avoir confiance en lui?
Se peut-il que tu ne vois pas qu'il t'a jobardé sur toute la ligne?
Je sais bien qu'il me trompe quelquefois,
dit à demi-voix le prince dont le visage s'était refrogné. Et il n'ignore pas que je le sais, ajouta-t-il, gardant pour lui le reste de sa pensée.
Il le sait, et il est toujours aussi confiant. Il ne manquait plus que cela.
Du reste, de ta part, c'est tout naturel, et je m'étonne de quelque chose.
Seigneur, mais y a-t-il jamais eu un pareil homme?
Fi. Et sais-tu que ce Ganka ou cette Varka l'ont mis en rapport avec Nastasia Philipovna?
Qui?
S'écria le prince.
Aglaé. Je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. Dans quelle intention?
Il se leva précipitamment.
Je ne le crois pas non plus, quoiqu'il y ait des preuves convaincantes. C'est une fille capricieuse, fantasque, folle. Une fille méchante, méchante, méchante. Je répéterai pendant 1000 ans qu'elle est méchante. Toutes mes filles sont comme cela maintenant. Même cette poule mouillée d'Alexandra. Mais celle-là m'a déjà glissé hors des mains.
Mais je ne la crois pas non plus. Peut-être parce que je ne veux pas le croire. Ajouta comme en aparté la générale. Puis elle s'adressa de nouveau au prince.
« Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir ? »
lui demanda-t-elle brusquement.
« Pourquoi depuis 3 jours entiers n'es-tu pas venu chez nous ? »
cria-t-elle impatiemment une seconde fois. Le prince commença à exposer ses raisons, mais Elisabeth Prokofievna l'interrompit.
« Tout le monde te considère comme un imbécile et te trompe. Tu as été hier à Pétersbourg. Je parie que tu es allé te mettre à genoux devant ce drôle et que tu l'as supplié d'accepter tes 10 000 roubles. »
Je n'y ai même pas pensé. Je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, ce n'est pas un drôle. J'ai reçu une lettre de lui.
« Montre-la !»
Le prince prit un pli dans son portefeuille et le tendit à Elisabeth Prokofievna. Voici ce que contenait cette lettre.
« Monsieur, aux yeux des gens, je n'ai sans doute pas le moindre droit de nourrir de l'amour-propre. Dans l'opinion du monde, je suis trop insignifiant pour cela. Mais ce qui est vrai aux yeux des hommes ne l'est pas aux vôtres. Je me suis convaincu, monsieur, que vous valez peut-être mieux que les autres. Je ne suis pas d'accord avec Doctoranko, et je me sépare de lui sur ce point. Jamais je n'accepterai de vous un copec. Mais vous êtes venu en aide à ma mère, et je vous en dois de la reconnaissance, quoique ce soit une faiblesse. En tout cas, j'ai changé d'opinion sur votre compte, et je crois nécessaire de vous en informer. Mais ensuite, j'estime qu'il ne peut plus y avoir entre nous de rapport d'aucune sorte. Antipe Bourdovski. Post-scriptum. Les 200 roubles que je vous dois encore vous seront sûrement remboursés avec le temps.
Quelle stupidité !
Fit la générale en rendant la lettre d'un mouvement brusque.
Ce n'était pas la peine de lire cela. Pourquoi souris-tu ?
Avouez que cette lettre vous a fait plaisir.
Comment ? La lecture de ce galimatia vaniteux ? Mais est-ce que tu ne vois pas qu'ils sont tous affolés d'orgueil et de vanité ?
Si, mais en somme, il a reconnu ses torts, il a rompu avec Doctoranko, et même, plus il est vaniteux, plus cela a dû coûter à son amour-propre. Oh, quel petit enfant vous êtes, Elisabeth Prokofievna!
Tu veux que je te donne un soufflet, n'est-ce pas?
Non, ce n'est nullement mon désir. Mais je dis cela parce que vous cachez la satisfaction que cette lettre vous a causée. Pourquoi avez-vous honte de vos sentiments? Vous êtes toujours ainsi.
Désormais, ne te permets plus de mettre le pied chez moi,
répliqua la générale, qui se leva pâle de colère. Je ne veux plus jamais respirer le même air que toi. Et d'ici à 3 jours, vous viendrez vous-même me prier d'aller chez vous. Allons, comment n'êtes-vous pas honteuse? Ce sont vos meilleurs sentiments, pourquoi en rougissez-vous? Vous ne faites que vous tourmenter vous-même.
Que je meure si je te revois jamais. J'oublierai ton nom. Je l'ai oublié. »
Elle s'éloigna brusquement du prince. « Avant votre défense, on m'avait déjà interdit d'aller chez vous, » lui cria-t-il.
« Quoi ? Qui te l'avait interdit ?»
Elle se retourna soudain comme si elle avait été piquée par une aiguille. Le prince hésitait à répondre. Il sentait qu'il venait de dire un mot de trop.
« Qui t'a défendu d'aller chez nous ?»
insista d'un ton irrité Elisabeth Prokofievna.
« Aglaé Ivanovna m'interdit... »«
Quand ? Mais parle donc !»
Ce matin, elle m'a fait savoir que je ne devais plus me permettre d'aller chez vous. »
Elisabeth Prokofievna resta comme paralysée par la stupeur. Néanmoins, elle essayait de recueillir ses idées.
« Qu'est-ce qu'elle t'a fait savoir ? Qui a-t-elle envoyé ? Elle a chargé le gamin de cette commission ? Elle t'a dit cela de vive voix ? »
cria-t-elle de nouveau.
« J'ai reçu une lettre d'elle, » répondit le prince.
« Où est-elle ? Donne-la, tout de suite !»
Après s'être consulté un instant, le prince tira de la poche de son gilet non pas une lettre, mais un petit morceau de papier sur lequel étaient écrites les lignes suivantes. « Prince Léon Nikolaïevitch, si, après tout ce qui s'est passé, vous avez l'intention de m'étonner en vous rendant à notre villa, vous ne me trouverez pas, soyez-en sûr, parmi ceux à qui votre visite fera plaisir. » Aglaé et Panchine. La générale réfléchit un instant, puis elle s'élança brusquement vers le prince, le prit par le bras et l'entraîna avec elle.
« Tout de suite, viens, il faut absolument que tu viennes tout de suite, à l'instant même, »
dit-elle vivement. Son agitation, son impatience étaient extraordinaires.
Mais vous m'exposez...
À quoi ? Oh, le nigo ! On dirait qu'il n'est même pas un homme. Allons, maintenant je verrai tout moi-même, de mes propres yeux.
Mais laissez-moi au moins prendre mon chapeau.
Voilà ton affreux chapeau, partons.
Il n'a même pas su choisir une forme un peu élégante.
Elle a écrit cela. Elle a écrit cela après ce qui a eu lieu tantôt.
C'est dans la fièvre,
balbutia Elisabeth Prokofievna, qui n'avait pas lâché le bras du prince et entraînait toujours celui-ci à sa suite.
Tantôt j'ai pris ta défense. J'ai dit tout haut que tu étais un imbécile de ne pas venir.
Autrement, elle n'aurait pas écrit cette lettre stupide, cette lettre inconvenante, indigne d'une jeune fille noble, bien élevée, intelligente.
Continua-t-elle. Ou peut-être qu'elle même est vexée parce que tu ne viens pas.
Seulement, elle n'a pas songé qu'on ne doit pas écrire ainsi à un idiot, attendu qu'il prendra tout au pied de la lettre. Et c'est ce qui est arrivé.
Pourquoi es-tu tout oreille ?
Cria-t-elle, s'apercevant qu'elle en avait trop dit.
Il lui faut un bouffon comme toi. Elle en est privée depuis longtemps.
Voilà pourquoi elle te demande. Tu vas lui servir de cible. Et j'en suis bien aise. J'en suis enchantée. Tu n'auras que ce que tu mérites.
Oh, elle saura te tourner en ridicule. Sois tranquille.